J'ai vu l'image qui se bloquait par moment, donc c'est ce qui m'a donné un indice, mais bizarre, bizarre. Bonjour Jocelyne, bonjour Jacques. De ce que je vois, Farley n'est pas encore connecté avec sa maman. Donc, c'est bien de la saluer toutefois, là. Mais dès que je verrai qu'elle se connecte, bien entendu, je vous laisserai savoir si on n'est pas pendant l'enseignement. We'll pray you have discernment. Farley, bonjour. Alors, bonjour à toi, Farley, bonjour à ta maman. Mais particulièrement pour toi, Farley, on vient de m'apprendre que c'est ton anniversaire. Alors, nous voulons te souhaiter un très, très, très joyeux anniversaire, Farley. Que Dieu te bénisse abondamment. Et qu'il te comble de sa grâce. Et on espère que tu passeras une très belle journée aujourd'hui. Alors que Dieu te bénisse, Farley. Alors bien entendu, on vous invite tous à saluer Farley, hein, puisque c'est son anniversaire. Donc elle répond au pseudo Farley Ino. Elle s'est connectée il y a quelques instants. Bonjour à la sœur Susanna, bonjour à la sœur Sylvia Lyons, bonjour à Didier, bonjour à Daniel Long, bonjour à Consuelo et à Jean, bonjour à Charlotte. Bonjour Maggie. Alors on va bientôt commencer, on va prier pour débuter, mais je vous rappelle et vous invite à souhaiter un très joyeux anniversaire à Farley, qui se connecte matin après matin avec sa maman. Bonjour Jimmy. Bonjour Natacha, bonjour Indirène et bonjour la petite famille. Alors prions pour débuter ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes, un moment pour plonger nos regards dans ta parole et recevoir une nourriture qui nous sera assurément profitable aujourd'hui, mais aussi Seigneur, dans l'avenir. Nous te demandons de nous accorder ta grâce pour entendre ta voix, pour saisir ta pensée et plus encore, Seigneur, pour mettre cet enseignement en pratique dans nos vies. Pose-nous les questions qui doivent nous être posées. Amène-nous à nous poser les questions que nous devons nous poser, afin, Seigneur, que quoi que nous fassions, quoi que nous disions, où que nous soyons, quelque temps, Seigneur, où on pourrait se trouver dans quelque circonstance que ce soit, que tu puisses, Seigneur, être fier de nos vies, fier de notre positionnement, et qu'en toute chose, que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, on continue à étudier Lévitique au chapitre 25. Particulièrement les versets 6 et 7 aujourd'hui, mais je vais quand même lire pour vous du verset 1 au verset 8. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui en proviendra des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur, à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Tu compteras 7 années, ou 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Alors je lis pour vous le verset 6 et le verset 7. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. On continue à étudier, bien entendu, la question du jubilé. Mais cette semaine, avec une emphase particulière sur la notion du sabbat. Et on a déjà expliqué ce que voulait dire le terme sabbat, qui erronément on le traduit habituellement par repos, mais le terme sabbat veut plutôt dire un temps de transition, donc entre deux étapes, un temps de transition entre deux modes d'opération distincts et différents, ou encore un temps marqué d'intermission, d'une intermission. Peut-être une pratique, un travail qui est coupé pendant un court laps de temps ou un long laps de temps et qui reprend par la suite. Alors, c'est deux idées connexes, deux idées proches. Celle tout d'abord du passage du point A au point B, mais de cette période de transition entre le point A et le point B, ou entre l'étape A et l'étape B, et de surcroît à cela, aussi un temps d'arrêt, tout simplement pour analyser ce qui a été fait par le passé et voir comment mieux se disposer, mieux se positionner pour l'avenir. Dans le verset 6 et le verset 7, on nous parle essentiellement de cette période de jachère. Cette période où Dieu va dire la 7e année que vous serez dans la terre promise, la 7e année du calendrier que je vous donne, vous consacrerez cette année-là à la jachère. Et la jachère, c'est tout simplement de laisser un champ, une culture en friche pendant une période de temps afin que celle-ci se repose, qu'elle puisse tout simplement ne pas être brusquée par le travail inhérent à l'agriculture et peut-être voir à ce que la semence qui a été plantée l'année dernière, voir à ce que les choses qui ont été enfouies par la terre, puisqu'on a labouré la terre, que cela puisse se décomposer et fertiliser la terre. Donc le repos plus la décomposition des anciennes choses faisait en sorte que la terre revenait 24 mois plus tard ou 10 ou 12 mois plus tard, revenait avec une vigueur renouvelée. Et là, Dieu va dire, voici, pendant cette période de jachère, vous ne mangerez de rien qui a trait à vos cultures habituelles. Donc, vous ne mangerez pas votre moisson, d'il y a maintenant un an, vous ne mangerez pas des contre-fruits ou des fruits connexes de votre moisson. Dans le sens où si on avait accumulé du blé à la sixième année, ce blé-là, Dieu va dire qu'il va le bénir et qu'il va se servir de ce blé-là pour nous nourrir pendant 1, 2, 3 ans. Mais il va dire, s'il était tombé quelques graines pendant que vous étiez en train de moissonner, je ne veux pas que vous retourniez dans le champ pour aller récupérer cette semence. Ça, c'est un sabbat à mon honneur, donc cela me revient à moi. Faites de même avec la vigne, que vous la travaillez ou non, elle va porter du raisin, même durant sa période de jachère ou sa période de répit. Mais ce raisin-là, je ne veux pas que vous y touchiez non plus. En fait, Dieu est en train de dire, vous allez dépendre de la moisson passée, celle que je vais multiplier, celle que je vais faire accroître pour votre nourriture. Il dit, et ce sera une règle pour vous, pour vos enfants, pour vos ouvriers, pour vos mercenaires. Il y a une différence entre le serviteur et le mercenaire que je peux expliquer dans quelques instants. Et de surcroît à cela aussi pour l'étranger, mais aussi pour tout votre bétail et vos animaux. Donc c'est l'ensemble de la population juive, l'ensemble des gens qui sont sur le territoire de Canaan, à qui il est interdit de cultiver et de manger du fruit de la culture ou de l'agriculture. Et de surcroît à cela, c'est aussi une imposition sur l'ensemble de la possession. C'est donc dire que l'ensemble de l'industrie agricole juive, qui représente un pourcentage très très élevé de l'ensemble de la population, donc cette part-là des agriculteurs ne devait plus ni cultiver pour eux-mêmes, ni cultiver pour vendre leurs produits. Alors l'ensemble de la population du territoire était soumis à cette jachère. C'est un domaine qui est intéressant lorsqu'on pense à ce que représente la terre. Il n'a pas dit vous arrêterez d'aller à la synagogue, vous arrêterez d'aller au tabernacle ou au temple. Il leur dit simplement vous arrêterez d'aller travailler la terre. Et le peuple juif, bien qu'on mangeait des animaux, bien qu'on mangeait du poisson, comme dans la plupart des cultures d'autrefois, le peuple était majoritairement axé sur les légumes, sur les fruits, plutôt que, comme on peut voir en Occident aujourd'hui, une nourriture qui est essentiellement basée, ou particulièrement basée, sur tout ce qui est la protéine animale. Donc Dieu leur disait, la chose qui est la plus importante dans votre subsistance, vous allez la mettre de côté pour me faire confiance à moi. En fait, la terre, c'était pratiquement un symbole de travail. Et pour nous aujourd'hui, lorsque on s'arrête sur cette question de travail, on s'arrête aussi à évaluer quelle est l'importance de Dieu par rapport à toutes les priorités de notre vie. Pour plusieurs, le travail reste et demeure la priorité numéro une de leur existence. Je travaille auprès d'une congrégation qui est essentiellement immigrante de première ou de deuxième génération. Et lorsqu'on parle sociologiquement d'une congrégation foncièrement immigrante ou d'une population qui est de première génération immigrante, on sait très souvent que les gens ont quitté leur pays pour vivre dans une condition meilleure ou préparer pour leur descendance, leurs enfants, leur progéniture, un avenir plus flatteur que celui que eux ont connu. Et ce faisant, en arrivant donc dans cette terre étrangère, il est important pour eux de se mettre au travail, pas nécessairement pour se faire une grande richesse, mais pour s'assurer que leurs enfants auront tout ce qui est nécessaire pour eux arriver à un point d'être mieux nantis que leurs propres parents ne l'étaient. Et c'est cette question qui est très proche, qui est très liée à la question de l'immigration. Et lorsqu'on parle à Israël lorsqu'on pense à Israël, dans cette première génération qui va rentrer dans la terre promise, ils sont eux aussi des immigrants de première génération. Alors, ils ont tout le système à démarrer, ils ont tout l'avenir à préparer, et il est normal dans leurs conditions que le travail devienne une priorité importante, voire une priorité très importante ou majeure dans leur existence. Mais Dieu va leur dire deux choses. La première année où vous rentrez, vous ne travaillez pas la terre, vous allez à contresens de toute logique humaine et de toute logique sociologique, et vous allez dépendre de moi pendant cette première année. Mais de surcroît à cela, je vais vous ramener régulièrement à cette étape où vous n'aurez d'autre choix que de dépendre de moi pendant cette année de jachère. Donc Dieu est en train de dire, durant cette première année, puis la 7e, la 14e, la 21e, et ainsi de suite, jusqu'à la 49e et la 50e année, vous allez être forcés de retourner à ces premières pratiques où j'étais la priorité numéro un de votre existence. Dieu veut faire en sorte que quand le peuple d'Israël rentre dans la terre promise, il ne dépende pas de sa propre force ou ressources humaines, mais qu'il dépende malgré tout de Dieu. Il ne veut pas que son peuple se réfugie dans une force d'ouvrage ou ce qu'on appelle le manpower, la ressource humaine. Il ne veut pas que le peuple de Dieu se réfugie dans ses propres capacités, mais il veut apprendre à son peuple à dépendre de lui. Alors parfois le travail, bien que la Bible nous dit que l'homme vivra à la sueur de son front, que l'on mangera à la sueur de son front, donc bien que le travail soit exhorté par le Seigneur, Jésus va dire « Mon Père agit, moi j'agis aussi ». Donc Jésus était au travail. Paul, on sait très bien qu'il était non seulement dans le service de Dieu, mais qu'à l'occasion, puisqu'il était de formation ou de profession, bâtisseur de tentes, régulièrement, Paul est retourné aussi à ce travail de bâtir des tentes. Donc le travail est encouragé par Dieu et le travail ne vient pas à l'encontre du service de Dieu. Par contre, le travail peut parfois ravir la place qui revient à Dieu. Donc là, la question pour nous, lorsqu'on parle de ce challenge, de ce défi que Dieu va placer devant son peuple en leur disant « La première année, puis la 7e année, la 14e et les autres, vous n'irez pas travailler la terre. » Il est en train de les pousser dans des pratiques qui ne sont pas naturelles. Il est en train de les pousser dans des pratiques qui vont à l'encontre de leur nature humaine en leur disant « Faites-moi confiance. » Dépendez de moi et mettez-moi en priorité pour ce temps-là. Et la question pour toi et pour moi, c'est savoir, est-ce qu'on est capable d'évaluer le rang de nos priorités versus Dieu? Est-ce qu'on est capable de réfléchir à savoir, quelle est vraiment la première priorité de mon existence? Est-ce que c'est vraiment Dieu ou régulièrement, effectivement, ça va s'avérer être le travail? Et comme j'ai dit tout à l'heure, je comprends que la Bible nous dit que nous devons nous nourrir à la sueur de notre front et que nous devons donc travailler. Mais est-ce que le travail pourrait devenir, est-ce que la profession pourrait devenir une priorité au-dessus de Dieu? Est-ce que ça se pourrait que ta charge de travail devienne plus importante pour toi, plus requérante pour toi que tes obligations envers Dieu? Alors, la première chose sur laquelle on doit s'interroger aujourd'hui, c'est évaluer le rang de nos priorités versus Dieu. Dieu est-il au premier rang ou, comme ça arrive régulièrement, le travail prend le dessus sur notre relation avec Dieu. La deuxième chose, toujours en lien avec la terre, on se rend compte que la terre, c'était aussi l'occasion d'avoir des employés, des servantes et des serviteurs, plus des mercenaires. Et je disais tout à l'heure que je ferais une courte explication de la différence. Les serviteurs et les servantes, en fait, ce sont des gens qui restent chez toi et qui sont dans le statut d'esclave. Le mercenaire n'est pas un esclave. Le mercenaire est quelqu'un qui serait aujourd'hui appelé comme un journalier, je crois, quelqu'un qui travaille, qui reçoit un salaire quotidien. Alors aujourd'hui, il travaille pour tel maître, mais demain, il pourrait travailler pour un autre propriétaire terrien qui lui aurait fait une offre meilleure que le propriétaire de la veille. Le serviteur, donc, était un étranger, était un esclave. Pourquoi je suis convaincu que c'était un étranger? Parce que la Bible nous dit, et on l'a étudié dans la question des dettes, un juif qui devenait endetté par rapport à quelqu'un et qui devait donner sa personne pour servir afin de payer une dette, ne pouvait pas être constitué esclave auprès d'un autre juif, parce qu'il devait être considéré comme son frère. Donc le plus bas statut qu'il pouvait recevoir était celui d'un mercenaire, donc d'un employé quotidien. Aujourd'hui, il travaille pour l'un, demain, il travaille pour un autre, pour un salaire qui est fixé de façon quotidienne. Donc lorsqu'on parle du serviteur, on parle de l'esclave, donc celui qui m'appartient, mais après ça, il y avait aussi celui que j'engage pour la journée. Et Dieu disait, non seulement toi, mais ta servante, ton serviteur, ton mercenaire, l'étranger qui habite parmi le peuple, et de surcroît à cela, les bêtes et le bétail. Mais arrêtons-nous sur les personnes. Le serviteur, la servante, le mercenaire et l'étranger. Dieu va dire, vous allez leur demander à eux aussi de respecter la jachère. Ça veut dire que le propriétaire terrien juif devait faire une prise de position publique. Il devait dire à ses serviteurs, à partir de telle date, qui constitue le début de la nouvelle année, je vous interdis d'aller travailler dans le champ. Je vous interdis d'aller ramasser quoi que ce soit dans le champ. Et ça obligeait donc le maître à prendre une position, à s'afficher publiquement, tant envers son serviteur, tant envers le mercenaire qu'il va utiliser à l'occasion, ou encore envers l'étranger qui traverse le pays, qui vient s'établir en terre juive et y faire sa niche. Tous devaient être soumis à cette règle de la jachère qui revenait 7 ans après 7 ans. Et ce faisant, on devait expliquer à tous pourquoi on faisait la jachère, quel était le plan de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça représente pour nous? On doit évaluer notre prise de position publique envers Dieu. Est-ce que je suis un chrétien caché à la Nicodème, que personne ne peut soupçonner de ne plus être judaïsant, de ne plus être de pratique juive, sadducéen, pharisien ou autre, de m'être converti à Christ? Est-ce qu'on est chrétien comme Nicodème qui ne s'affiche pas? Et je ne crois pas que ça doit être la règle. Je comprends que dans certaines contrées, dans certaines situations, il y a des chrétiens qui doivent pratiquer leur foi en secret. Parce que sinon ils sont tués, et s'ils sont tous tués, ben à ce moment-là, le fait de répandre l'évangile est stoppé. Mais je crois que, hormis d'un contexte comme on pourrait voir dans l'ancien Empire communiste, dans la Corée du Nord, en Chine encore aujourd'hui, dans certains pays musulmans où la conversion au christianisme est synonyme de prison, est synonyme de blasphème, est synonyme aussi d'être répudié par sa famille, rejeté, voire même dans certains cas mis à mort par sa famille. Hormis dans des cas comme cela, je crois effectivement que nous devons nous évaluer, surtout à nous qui sommes en Occident, qui avons pleine liberté, on doit évaluer quelle est notre position publique, notre prise de position publique pour Dieu. Et là, vous allez me dire, oui, dans ce contexte, pasteur, on ne vous entend pas assez parler contre le gouvernement. Je ne parle pas pour contre le gouvernement parce que je ne crois pas que le gouvernement actuellement s'attaque à l'Église de façon claire, précise et délimitée. Je crois que les restaurateurs souffrent énormément. Je crois que les propriétaires de gym souffrent énormément. Je crois que les enfants privés d'école souffrent énormément. Je crois que le système de la santé, avec toutes nos infirmières et nos médecins qui travaillent d'arrache-pied depuis des mois et des mois, au-dessus d'un an maintenant, souffrent énormément. Je pense que nos responsables de services de garde, nos moniteurs, monitrices, éducateurs et éducatrices plutôt en services de garde souffrent également, et l'Église fait partie de cet ensemble-là. Donc, ce n'est pas une attaque claire contre l'Église, et voilà pourquoi je ne prends donc pas position contre une attaque, puisque je ne crois pas que ce soit une attaque précise contre l'Église. Par contre, je continue à prêcher Christ et je continue à inviter l'Église à prêcher Christ. Il est important qu'en tant que chrétien, nous prenions position. Ici, le juif va dire à son serviteur, va dire à sa servante, va dire à son mercenaire, va dire à l'étranger qui habite au milieu de sa terre, va leur dire: nous ne pratiquons pas la culture cette année, nous ne travaillerons pas la vigne parce que l'Éternel nous l'a demandé. Il va devoir expliquer qui est l'Éternel, va devoir expliquer pourquoi l'Éternel a demandé cela, et va devoir expliquer pourquoi lui, en tant que croyant, obéit à l'Éternel. Et ça, l'Église doit, et l'Église le fait encore. Ce que je fais aujourd'hui, c'est m'afficher publiquement pour Christ. Ce que je vais faire dimanche matin, c'est encore une fois m'afficher publiquement pour Christ. Je fais un pied de nez à la pandémie, je fais un pied de nez au temps difficile qu'on traverse actuellement, en prêchant encore plus, encore davantage et avec encore plus de vigueur, je l'espère, l'Évangile de Christ. Donc nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas être des chrétiens cachés, nous devons prendre une position publique pour Christ. Troisième point ce matin, lorsqu'on parle de la jachère, de cette année-là où on n'envoie plus nos serviteurs travailler dans le champ, on n'envoie plus le mercenaire travailler dans nos champs, ben le standing social, les rangs sociaux sont chamboulés. De surcroît à cela, ceux qui avaient des dettes à notre égard sont libérés de leurs dettes selon la parole de Dieu, selon les exigences de Dieu, comme on l'a vu lorsqu'on a parlé de la rémission des dettes. Si on est arrivé dans l'année du jubilé, l'esclave est affranchi, à moins qu'il ne décide de rester chez son maître. Donc, tout ce qui était standing social est chaviré et chamboulé. Et pour nous aussi, pour le juif de l'époque, ça représentait une abnégation. Ça veut dire que pendant 6 ans, il avait accumulé un certain pécule, il avait accumulé un certain standing, il avait accumulé un certain rang social, un rang d'autorité. Et pendant toute cette année où il n'avait pas besoin de serviteurs, où il n'avait pas besoin de mercenaires, pendant toute cette période où on tombait en jachère et il devait se préparer pour la prochaine saison où on labourerait dans 12 ou dans 24 mois, ben à ce moment-là, il n'y avait plus le standing social. Et ça représentait, lorsqu'on se soumettait et se conformait à cette règle de la jachère, ça représentait une décision d'humilité et une décision d'abnégation de la part du croyant envers ce que Dieu avait demandé. Alors pour nous aussi, aujourd'hui, on doit évaluer dans notre relation avec Dieu, quelle est la manifestation de l'abnégation. Abnégation, c'est faire passer d'autres personnes en priorité parmi nous, ou au-dessus de nous, donc en l'occurrence Dieu, en l'occurrence notre prochain, comme on l'a déjà étudié. Et de surcroît à cela, c'était aussi une soumission envers Dieu. Donc obéissance, abnégation, humilité, c'était bien des traits de caractère qu'il fallait mettre de l'avant lorsque nous acceptions effectivement d'appliquer la jachère pendant cette année. Pendant la septième année, lorsqu'on acceptait effectivement cette période de sabbat, c'était effectivement une période aussi d'humilité, une période d'abnégation et une période de soumission à Dieu. Alors pour nous aussi, alors que nous cheminons avec le Seigneur, on doit se poser la question, est-ce que je fais preuve d'abnégation? Est-ce que je fais preuve de soumission par rapport à Dieu? Est-ce que je fais preuve d'humilité, assez d'humilité pour m'abaisser comme tous les autres occupants de la terre juive? Dernier point avec lequel on va terminer aujourd'hui, la terre qu'on ne devait pas cultiver était bien entendu un symbole de subsistance. Je disais un peu plus tôt que la majeure partie de la diète juive, de l'hygiène alimentaire de l'époque, était essentiellement végétale et non pas animale. C'est juste dans les contrées très contemporaines et puis occidentales que la viande est venue à prendre une si grande importance dans la diète quotidienne. Mais pendant des siècles et des siècles, on mangeait peu de viande, essentiellement dans les occasions spéciales. Et ce qui était important, c'était notamment le pain, mais aussi tout ce qui était les légumes pour faire potage ou pour faire des ragoûts de légumes, des plats à base de légumes. Alors lorsque Dieu disait au peuple d'Israël, « Vous n'irez pas moissonner, donc je vais vous priver du fruit de vos champs au niveau du blé, au niveau de la farine, au niveau de pouvoir faire du pain, qui était la substance essentielle de l'alimentation. Je vais vous priver après ça de tous vos jardins. Je vais vous priver de votre vigne pendant cette période-là. Je vais pourvoir, oui, mais différemment. » Alors, pour le Juif qui acceptait de se conformer à cette requête du sabbat de la terre, pour le Juif, c'était aussi une question de démontrer sa dépendance envers Dieu, de ne plus dépendre du champ qu'il cultivait, mais de dépendre de la provision qu'on appellerait la providence étant la provision qui vient de Dieu. Donc, être dépendant de la provision de Dieu, mais de surcroît, c'était aussi l'occasion de manifester notre foi envers Dieu. On vous rappelle que ça, Dieu a averti son peuple 40 ans avant d'entrer dans la terre promise. Et pendant toutes ces deux générations qui se sont préparées à rentrer dans la terre promise, puisqu'on calcule habituellement qu'une génération, c'est 20 ans, alors lorsque ces deux générations se promenaient dans le désert, ils ont appris à dépendre de Dieu, ils ont appris à avoir foi en Dieu, et Dieu voulait qu'une fois rentrés dans la terre promise, on puisse encore inculquer cette notion de foi et la pratiquer et la garder vivace et vivante. Donc pour nous aujourd'hui, on a aussi à se poser la question, à savoir quelle est ma dépendance envers Dieu? Est-ce que je dépends de Dieu ou je dépends de mon emploi? Est-ce que je dépends de la providence de Dieu ou je dépends de l'assurance que m'apporte mon travail? Et parfois, c'est subtil. On sait que oui, c'est Dieu qui pourvoit l'emploi et on le remercie pour ça. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais à un moment donné, il y a comme une déviance qui s'opère et à ce moment-là, on vient pratiquement plus à regarder ce qui va arriver dans deux semaines ou dans un mois lorsque le chèque de paye arrive, dépendamment comment vous êtes payé aux semaines ou deux semaines ou au mois. Donc là, on est en train de vérifier, ok, je dois calculer qu'est-ce qui se passe d'ici deux semaines. Et bien que ça soit une très bonne chose de faire son budget, à un moment donné, on peut plus dépendre du salaire qui nous est donné, octroyé, plutôt que de dépendre à Dieu. Malheureusement, la provision de Dieu régulièrement ne va se manifester qu'une fois que le pas de foi est fait. Pierre a été capable de marcher sur les eaux une fois qu'il a posé le pied sur l'eau. L'eau s'est solidifiée pour qu'il puisse marcher. Lorsque le Seigneur a séparé les eaux tant pour le passage de la mer Rouge que pour le passage du Jourdain, la Bible est très claire que lorsque les sacrificateurs ont mis le pied dans l'eau, à ce moment-là, l'eau s'est séparée. Donc, il y avait ce pas de foi initial qui devait être fait pour que la provision, pour que la manifestation de la parole de Dieu se fasse régulièrement. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien qu'on dise avoir la foi, on aime voir le résultat de notre foi avant d'avoir manifesté notre foi. Alors que la foi vient engendrer vient susciter l'action de Dieu. Rappelons-nous, la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, pour que Dieu réponde à ce côté agréable que nous suscitons chez lui, il nous faut donc manifester notre foi. Et parfois, le sabbat, parfois l'arrêt, ce temps-là où nous regardons ce qui a été accompli jusqu'à aujourd'hui et nous préparons le travail de demain, très souvent, c'est l'occasion aussi de s'interroger à savoir quel est l'état de ma foi et quel est l'état de ma dépendance envers Dieu. Est-ce que j'ai été un homme de foi jusqu'à présent? Comment je peux être encore plus armé de foi? Est-ce que j'ai dépendu de Dieu jusqu'à présent et comment je peux dépendre de lui encore davantage dans la prochaine étape? Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu qu'il était important de réévaluer le rang de Dieu dans nos priorités. Est-il, oui ou non, notre première priorité? Deuxièmement, et la priorité qui vient souvent en compétition avec Dieu, c'est soit notre famille, soit notre travail. Dans le cas de l'enseignement aujourd'hui, c'est vraiment une question de travail. Est-ce que Dieu est notre priorité ou le travail pécunier, travail professionnel est notre priorité? Deuxièmement, évaluer notre prise de position publique. Est-ce que je m'affiche pour Christ? Est-ce que j'explique que ce que je fais, c'est parce que Christ me l'a demandé et parce que je suis chrétien, je respecte les lois parce que je suis chrétien, je prends soin de mon prochain parce que je suis chrétien, nous devons nous afficher publiquement pour Christ. Troisième point, évaluer notre degré d'abnégation, notre degré d'humilité et notre degré d'obéissance ou de soumission envers Dieu. Ai-je été soumis ou ne l'ai-je pas été? Comment je peux être davantage soumis, davantage humble, davantage manifestant de l'abnégation dans la prochaine étape? Et enfin, évaluer notre dépendance et notre foi envers Dieu. Comment ai-je été dépendant de Dieu jusqu'à présent? Comment puis-je augmenter cette dépendance? Comment ai-je fait preuve de foi jusqu'à présent? Comment demain, lorsqu'on retournera au travail, je puisse manifester encore davantage de foi? Alors, c'est ce que nous avions pour ce matin. Permettez-moi de prier avec vous et après ça, on va vous saluer. Alors, merci Seigneur pour cette parole qui vient encore une fois nous mettre au défi, à nous améliorer, nous mettre au défi pour connaître une progression, une transformation, un changement qui te sera agréable. Oins cette parole par ton esprit, permets-lui, Seigneur, de s'enraciner en nous et de devenir, Seigneur, très clair dans notre pensée. Quelles sont les choses que tu veux voir changer en nous? Quels sont les domaines que tu veux transformer? Quelles sont les choses que tu veux voir abandonner entre tes mains à ton profit? Quelles sont les choses qui viennent en conflit avec toi ou qui viennent, Seigneur, en compétition avec toi? Nous voulons, Seigneur, t'honorer avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons. Que ton nom, Seigneur, soit élevé. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, permettez-moi juste de remonter un peu pour saluer quelques personnes qui se sont jointes à nous. Je remonte un peu. Alors, je pense qu'une des dernières personnes que j'avais saluées, c'était la sœur Charlotte. Donc, je remonte. Non, c'était Natacha Indiren, je crois. Alors, bonjour Babette. Bonjour Andreas, son époux. Bonjour José Luis. Bonjour la sœur Samek. Que Dieu vous bénisse. Content de vous avoir avec nous. Bonjour Didier. Bonjour Annie. Que Dieu te bénisse. Bonjour à la sœur Susanna. Qui d'autre? Bonjour à Daniel, cette fois-ci, Daniel sans E à la fin. Daniel Lopez, que Dieu te bénisse, merci d'être là encore ce matin. Bonjour à Michel, oh ça fait longtemps Michel, que Dieu vous bénisse. On prie pour vous constamment, le vendredi vous faites partie de notre liste de requêtes. Que Dieu vous bénisse, très content que vous soyez là ce matin et au travail en plus. Soyez bénis. Bonjour à Yaoi. Bonjour à la sœur Nancy. Qui d'autre? Bonjour à Myriam et à Donald. Et je crois que c'est tout pour ce matin. Alors, passez une bonne journée. On vous rappelle, ce soir, il y a l'étude biblique avec le pasteur Sergio. On est mercredi. On vous rappelle aussi que les inscriptions pour l'assemblée de dimanche ont malheureusement dû être annulées puisqu'on retombe à 25 personnes. Donc, on ne peut pas accueillir de gens pour l'instant. On va voir comment on peut pallier à cela un peu. Mais maintenant, c'est un peu difficile. Donc, que Dieu bénisse chacun des pasteurs et chacune des églises qui doivent se réajuster de nouveau et vivre encore un temps de confinement. Que Dieu leur permette d'être efficaces malgré tout pour le service de Dieu. Alors, si vous avez des amis qui sont dans le ministère, assurez-vous de leur lâcher un petit message aujourd'hui simplement pour les encourager. En dépit des circonstances, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai quelques pasteurs amis qui trouvent la chose assez difficile malgré tout le travail acharné qu'ils font. Donc, encouragez-les. Alors, sur ce, bonne journée à vous tous et on se retrouve ce soir avec le pasteur Sergio, sinon demain matin pour notre prochaine bénédiction matinale. Bonne journée à tous, au revoir.